Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort ? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je m'appelle David, j'avais 23 ans, j'étais barman rocker et depuis le 13 novembre 2015, je suis un rescapé. En 2015, j'avais 23 ans et j'étais barman. J'avais erré un peu dans pas mal de jobs, dont le métier de photographe quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'avais fini par être barman dans un bar du 5e arrondissement de Paris qui s'appelle le River, qui n'existe plus aujourd'hui. Il était au 40 rue Descartes, et donc j'étais entre guillemets le directeur. Moi, je suis né au Chili en 92 et on a émigré en France en 96 avec mes parents et mon frère. On était sans papier pendant 2 ans. J'ai grandi dans, à Tismons, dans le 91, et je suis vraiment issu de la classe populaire, on va dire, et donc j'ai vécu le déracinement du Chili de manière assez brutale, où en fait, moi, on habitait à la campagne au Chili, et en fait, on a fini dans une barre d'immeubles HLM de l'Essonne. Donc voilà, ça a été un des premiers grands traumatismes de ma vie, en fait. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte de ça à ce moment-là, mais aujourd'hui, je sais que c'est comme ça. J'ai 4 ans quand j'arrive en France. Alors en fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment souvenir d'arriver à l'école. Donc je crois que je rentre à l'école un an maximum après qu'on soit arrivé en France, et je comprends pas ce que dit la maîtresse. Et ce qui est drôle, c'est que dans mes souvenirs, je ne comprends toujours pas ce que me dit la maîtresse, et je sais qu'elle me parle en français, mais moi je parle pas cette langue. J'ai tous ces regards, tous ces enfants qui me regardent et qui comprennent pas vraiment qui je suis, quelle langue je parle, etc. Et c'est en ça que c'était vraiment un mur, parce que je comprends pas vraiment où je suis. J'ai de la peine parce qu'en fait, au Chili, j'avais pas été à l'école et je suis plus avec mes parents. Ma mère me raconte que je me suis adapté assez vite, que je suis vite rentré en parlant français et que j'ai appris vite. Après plusieurs errances professionnelles, je trouve enfin un truc qui me plaît, dans lequel je peux me développer personnellement, dans lequel je me sens bien. Il s'agit de faire la fête, d'organiser la fête aussi, donc c'est important pour moi que les gens soient heureux. Puis en dehors de ça, même de manière assez terre à terre, j'adore faire des verres en fait. C'est hyper cool, ça ressemble un peu à de la cuisine. Et puis en fait, si on peut le faire en écoutant du rock, c'est encore mieux, quoi. Donc il y a vraiment, ça mélange beaucoup d'univers que j'aime beaucoup, quoi. Donc ça me plaît énormément. Je pense que si on peut faire une liste de choses que j'aime le plus, on peut commencer par la musique. Mon père, il joue de la guitare depuis qu'il a 12 ans et il m'a transmis ça. Et donc très tôt, il m'a offert un album de Deep Purple qui s'appelle Made in Japan, qui est un live qui a été enregistré il y a très longtemps. Et donc je suis tombé amoureux du rock et de la musique, et aujourd'hui j'écoute vraiment toute la musique du monde, peu importe de style, enfin j'écoute vraiment tout et n'importe quoi, et c'est vraiment le truc qui me fait me sentir bien. Ensuite, on peut parler des jeux vidéo qui m'accompagnent aussi depuis que je suis vraiment enfant, et voilà. Et ensuite, aujourd'hui, le sport, il y a beaucoup de choses comme ça qui constituent mon existence, mais qui m'aident aussi et que j'aime beaucoup. J'ai 23 ans et en fait, je suis en couple avec une fille depuis quelques mois, en fait. Et donc, je rencontre une autre fille qui s'appelle Doris. Et donc, cette fille, Doris, je la rencontre, c'est un 21 juin 2014. Et donc, on est dans le jus, dans le bar et tout, et j'ai cette nana qui rentre et qui me commande deux shots de tequila. Et moi, je tombe amoureux d'elle, en fait, instantanément. Et je me dis, j'ai mon monde qui s'écrase en deux et qui, voilà, enfin, je suis fou amoureux d'un coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, on commence à échanger. À l'époque, elle était stagiaire au Zinrock. Ou je sais pas si elle était stagiaire ou autre chose, mais je crois qu'elle était stagiaire. Et donc, on commence à parler photos, tout ça, je vois qu'elle s'y connaît. Puis en fait, après, moi, je l'ajoute sur Facebook. Et on se met à se parler, et en fait, on se loupe, parce qu'elle est originaire du sud de la France, et elle y retourne pour continuer ses études, et moi, je reste à Paris, quoi. Et donc, je lui dis, mais tu reviens quand à Paris, quoi? Elle me dit, bah, dans un an. Et un an après, c'est 2015. Donc, on est à l'été 2014, et on va à l'été 2015, quoi. En fait, la photo, c'est un truc qui me suit depuis que j'ai 15 ans. C'est un ami à moi qui m'a expliqué un jour que c'était possible de faire de la photographie de manière artistique. Moi, je viens d'un milieu populaire où vraiment la photographie, c'était les photos de famille ou les photos de groupe et c'était tout, quoi. C'était des marqueurs mémoriaux plus que des marqueurs artistiques. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un des piliers constituants de mon existence. En 2015, en fait, j'ai commencé à faire des extras dans un autre bar à Pigalle. J'avais eu ce contact-là par une des clientes, justement, qui venait au River et qui traînait souvent là-bas. J'ai commencé à faire des extras et en fait, il y a une des barmaids qui était sur le départ de ce bar et on m'avait dit, bon bah écoute, Claire va s'en aller, donc nous on va chercher quelqu'un et tu sembles vraiment la personne vraiment dédiée à ce poste, quoi. Et donc je me projetais nouveau barman, non plus extra, et surtout quitter le River qui était un peu précaire et surtout un bar un peu à l'arrache, quoi, un peu étudiant, tout ça. Donc je voulais quelque chose de plus stable et donc c'était ça mes projets, quoi. Je voulais être barman au Rock'n'Roll Circus et m'installer à Paris, etc. parce que j'habitais toujours chez mes parents. J'ai un collègue qui s'appelle Cyril et on va voir plein de concerts ensemble, voir du rap, on passe nos étés dans les festivals et enfin vraiment avec lui j'allais toutes les semaines voir un concert, que ce soit du rock, du rap, on allait voir des trucs et juste pour le plaisir, quoi. Donc forcément j'allais très souvent voir des concerts, y compris au Bataclan. En fait j'avais vu quelques mois auparavant un concert de rap des Underachievers que j'avais adoré d'ailleurs. Donc c'est une salle que j'aime beaucoup, quoi. En fait le billet pour le 13, c'est un ami qui me l'offre, c'est Guillaume qui me l'offre. Et en fait, il m'offre cette place parce qu'il me dit, écoute, je pense qu'on va passer un bon moment. Moi, j'avais pas la thune pour le prendre. Et donc, il me l'offre, je crois, au cours du mois d'octobre. Et donc, moi, je suis content, on s'embrasse et tout. Je suis ravi, quoi. Et je me projette tout de suite dans ce concert où je sais très bien, le Bataclan, c'est une petite salle, ça va être cool. Il y a de la bière et puis on va faire la fête, quoi. Je connais pas trop les Yellow Death Metal. Je connais vraiment, en fait, il y a deux entités. Il y a les Queens of the Stone Age et les Yellow Death Metal. Et en fait, Yellow Death Metal a été co-fondé par le gars qui a fondé Queens of the Stone Age. Donc moi, je suis plus fan des Queens of the Stone Age, mais mon pote Guillaume me disait « Ouais, mais tu verras, c'est du rock. » Enfin, on se tape une barre et puis on boit un coup. Et pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. Donc en fait, le 13, je me réveille, j'ai faim. C'est important, c'est un détail important parce que je fonce faire des courses. Et en fait, c'est une journée comme une autre, quoi. Et ce truc-là, c'est vraiment constituant, quoi, parce que c'est une journée qui démarre, voilà. Et j'ai rendez-vous avec Guillaume et trois autres potes à la Péroque, qui est le café, le bar qui est vraiment attenant au Bataclan. Vers 18h. Donc vraiment je me projette à cette fin de journée, je passe la journée à jeux vidéo parce que je bosse pas, donc je suis vraiment content, quoi. Et je quitte le domicile de mes parents vers 17h30, 18h maximum, je suis un peu en retard, je crois. Donc on rentre au Bataclan, il doit être 20h30 je pense, et on a bien picolé, je pense, on est tous barman, donc forcément il y a ce truc là qui nous l'alcool qui nous unit, c'est un peu bizarre à dire mais pour le coup c'est vraiment ça. Et donc ouais, on rentre, il est 20h30, la première partie est déjà passée, on prend des bières et en fait on est avec deux filles qui elles vont dans la fosse et nous on monte au balcon. Le concert démarre et en fait on est toujours au balcon et on continue de picoler, moi je fais des vidéos, j'envoie une vidéo à mon père notamment et j'écris à ma copine à bah regarde et tout, c'est vraiment cool, enfin vraiment moi je découvre le groupe, quoi. Je connaissais un morceau ou deux maximum et je suis vraiment content d'être là, quoi. Moi, j'ai bu, et donc je vais aux toilettes une première fois, et en fait, dans les toilettes, je me rends compte que la fête continue, quoi. Les gens parlent, tout le monde est content et tout. Et ça, c'était aux alentours de 21h10-15, et puis après, je retourne aux toilettes aux alentours de 21h45. Et puis, quand je suis aux toilettes, j'entends tout de suite des coups de feu, quoi. Et ça me surprend, et pour autant, je comprends très vite qu'on tire. Et en fait, j'ai tellement joué aux jeux vidéo que je comprends assez vite, quoi, que ce qui est en train de se passer. Et même si j'ai un doute, je me dis, il faut que je remonte voir mes deux potes. Parce qu'en fait, les toilettes sont une espèce d'entre-étage au Bataclan. C'est un peu particulier, mais. Donc, je prends des escaliers pour remonter au balcon. Et, mes deux potes me disent, mais non, c'est un effet de scène. C'est l'effet d'artifice, quoi. Comme 90% de la salle pense. Sauf que moi, je continue à avoir ce doute. Et en fait, pour le lever, je vais sur le garde-fou du balcon pour regarder ce qui se passe en dessous, quoi. Et c'est là que je vois en fait le début de l'attentat. Donc je vois des gens qui s'allongent, qui se prennent des balles, je vois du sang, etc. Et je comprends qu'il y a une situation de danger, quoi. Donc je crie très vite au balcon à tout le monde de se coucher. Et je retourne voir mes amis pour qu'on s'enfuit ensemble. C'est un peu flou. Moi je me rappelle bien, mais la situation est vraiment brouillon, quoi, parce qu'on y a des cris partout. Enfin vraiment c'est un univers de souffrance où les gens voilà sont prostrés. Enfin voilà c'est la panique, quoi. Et en fait, on se comprend pas trop avec mes deux potes. Je suis avec un ami qui s'appelle, enfin, qu'on surnomme Bambi et Guillaume qui est avec moi. Et on se comprend pas. Guillaume s'enfuit d'un côté, Bambi de l'autre. Et moi, je me retrouve tout seul sur le balcon et il y a pratiquement plus personne. Donc, je me mets à ramper vers une issue de, enfin, ce que je pense être une issue de secours, à l'opposé de Bambi. Et je me dis, bon, bah, là, il va y avoir une issue, quoi. Je me dis que c'est, bon, on peut peut-être s'enfuir par là parce que je ne voulais pas redescendre au rez-de-chaussée parce que je savais que c'était en dessous qu'il y avait le danger, quoi. Donc, je rampe vers cette porte qui est, en fait, donne sur un couloir de service qui est tout petit, quoi, qui fait 1m30 sur 6m de large. C'est vraiment, c'est une coursive. Et je tombe sur une trentaine de spectateurs, de victimes qui sont là, et tout le monde est en panique. Donc, un moment de flottement qui dure à peu près 3-4 minutes. Et j'observe, en fait, à ma gauche, j'ai deux grandes fenêtres d'environ 2m de haut sur 1m de large, et dont une de ces deux fenêtres qui est ouverte, qui donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Et donc, je regarde une première fois, je me dis, non, mais je peux pas sauter, c'est trop haut, on est au moins à 7m de haut. Et je me dis peut-être m'accrocher pour tomber, mais en même temps j'ai tellement peur de m'écraser que je refuse cette éventualité-là. Et en fait au moment où j'essaie de processer tout ça, j'ai Guillaume qui est à côté. Enfin vraiment c'est tout va très très vite quoi. Et je me rends compte qu'en fait les tirs commencent à se rapprocher de la porte et que en fait les tireurs vont arriver. Quoi. Les gens s'enfuient quoi, dans tous les sens et moi j'ai l'incroyable idée de m'accrocher à une des deux fenêtres. Donc, je suis vraiment sur le rebord d'une des deux fenêtres du couloir. Et il y a un gars qui se met à côté de moi, que je connais pas, qui a les cheveux bouclés, qui a sa veste autour de la taille. Et puis, en fait, on attend. Donc, moi, je jette des coups d'œil au niveau de la rue et je vois des gens courir dans le passage et s'effondrer sous les balles, etc. Il y a du sang partout. Enfin, on entend des sirènes. Quand j'y repense aujourd'hui, c'est vraiment... c'est l'enfer, quoi, en fait. Le cerveau commence à réaliser que c'est la fin, quoi. Moi, en me mettant là, je comprends que... Enfin, je voulais m'enfuir et, en fait, je suis complètement pris au piège, quoi. On est tous les deux et il y a une femme enceinte qui est aussi accrochée à ces fenêtres-là. Donc, elle demande à l'homme qui est à côté de moi de l'aider parce qu'elle va lâcher, en fait. Le mec à côté de moi, je me mets à lui parler. Il me dit qu'il s'appelle Sébastien, qu'il demande mon prénom, etc. Et, en fait, assez bizarrement, je lui dis que ça va aller, quoi. Et je le rassure et je lui dis « Non, mais ça va aller, tu verras, on va se retrouver, tout ça. » Je sais pas pourquoi je lui dis ça, et pour autant j'y crois, quoi. C'est assez bizarre. Et en fait, il repasse la fenêtre, il tend la main à cette femme enceinte, il la sauve, et elle s'enfuit, et aussi bizarrement que ça puisse paraître, au lieu de la suivre, il retourne près de moi, en fait. Et donc, il se passe plusieurs minutes comme ça, où on est accroché à ce rebord de fenêtre, où en fait, moi, j'ai les mains qui sont tailladées, parce que j'avais les mains posées sur une aération. Et j'ai vraiment cette certitude de me dire, c'est la fin. Et au moment où je pense ça, et j'essaie de le processer... Je dis au gars à côté de moi, il y a un mec armé qui va traverser, donc tu fais rien, quoi. Tu suis ses ordres, vraiment, tu fais pas le fou. Enfin, vraiment, je lui dis, mais il y a des chances qu'on s'en sorte, quoi. Et en effet, ça se passe. Donc, on voit le canon d'une Kalachnikov qui passe devant nous à travers la fenêtre. Et en fait, le mec, qui est un des trois terroristes qui attaque le Bataclan, nous donne l'ordre, en fait, de rentrer dans le couloir pour retourner dans la partie spectacle du Bataclan, parce que là, on était dans le backstage, entre guillemets, et nous demande de nous asseoir sur le rebord du balcon. C'est pas qu'on le voit, on le sent même. On est avec lui, quoi. Donc lui, moi j'ai un moment d'hésitation où je me demande si je vais pas l'attaquer, je vais pas voilà, et en fait il pose sa calache sur ma poitrine et il me dit d'aller là-bas quoi. Et donc on s'assoit avec une dizaine d'autres personnes et là commence la prise d'otage. Il y a pas de silence dans le Bataclan, hein. Les gens crient. En fait, il y a deux terroristes. Il y a celui qui est venu nous chercher à la fenêtre. Il y en a un deuxième qui était, lui, plus proche de la balustrade du balcon, quoi, du garde-fou. Et en fait, on entend une troisième voix, mais on comprend pas trop qui c'est qui parle, parce que c'est vraiment très bruyant. Il n'y a pas de silence. Et donc, le deuxième terroriste qui est avec nous, lui, est vraiment... c'est le loup dans la bergerie. Donc, c'est l'autre. C'est celui qui nous a descendu de la fenêtre, qui nous parle. Et donc, nous, on a interdiction de parler, d'échanger, hein, logique. On est des otages. Et... il se met à faire des diatribes sur l'État islamique, donc entre guillemets, il se présente, quoi. Nous, on est des soldats, on est là pour vous attaquer parce que François Hollande, etc. Donc il y a toute cette motivation, entre guillemets, politique ou religieuse, je sais pas, radicale, quoi. Et moi, je comprends pas, en fait. Moi, j'ai 23 ans, je suis barman. Je m'intéresse pas trop à l'actualité. J'avais suivi ce qui s'était passé en janvier à l'Hypercacher, à Charlie Hebdo et à Damartin Angouel, mais j'avais pas vraiment fixé cette menace-là de l'État islamique. Donc, j'étais vraiment dans une forme d'insouciance et j'ai un mec armé qui me dit « Écoute, tu vas mourir parce que ton président, il a fait n'importe quoi. » Et c'est vraiment ça, quoi. Et donc, en fait, ce truc-là le mène à me poser la question et il me dit « Tu penses quoi de François Hollande ?» Moi, j'étais vraiment j'étais un peu dans une espèce de torpeur traumatique où j'essaie de comprendre ce qui se passe et encore une fois, j'ai 23 ans, quoi. 20 minutes plus tôt, je suis en train de trinquer avec mes potes, écouter du rock. Et je comprends pas qu'il s'adresse à moi, en fait. Et même si je comprends pas, j'arrive pas à réaliser, en fait. C'est pas que je comprends pas, c'est que je comprends pas que cet homme-là s'adresse à moi. Et donc, il repose la question. Et là, je comprends qu'il s'adresse à moi parce qu'il me braque. Et je dis, bah, je pense rien, moi. Et c'était vraiment le cas, en fait. C'est vraiment, j'ai 23 ans, je suis pas français. Même si j'ai fait l'école de la République, enfin, je suis en dehors de tout ça. Je m'y intéresse pas. Et il repose la question, il me fait « Mais si, tu penses bien quelque chose ?» Et donc là, il faut vraiment s'imaginer que dans le Bataclan, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement bruyant, quoi. Il y a des coups de feu, il y a des gens qui crient, c'est un chaos. Et lui me demande posément ce que je pense de François Hollande. Et donc je lui dis une deuxième fois « Je pense rien, je suis pas français. » Et en fait, il me pose la question de... Il me dit « Mais t'es d'où ? Tu penses bien quelque chose ? T'es d'où ?» Je lui dis « Bah, je suis chilien. » Et en même temps, après, juste après, il rajoute, il me coupe la parole et il dit « Ne te crispe pas parce que t'as peur de moi. » J'ai dit « Bah, je fais signe de la tête que j'ai pas peur de lui. » Et je sais pas trop pourquoi je dis ça. Et en fait, j'ai réécouté ça au procès. Je sais toujours pas pourquoi je lui ai répondu ça, mais le fait est que voilà, je sais pas s'il comprend que je suis chilien ou j'en sais rien, mais en fait, ça le décourage. Il a choisi de tous les otages, il a choisi le pire interlocuteur parce que j'aurais pu dire tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai fini par dire que bah, je sais pas, que je suis pas français et que voilà. Donc, ça a un peu annulé son propos. Et en même temps, ça l'a renforcé, parce qu'après, il a continué, voilà, l'État islamique, etc., etc. Et concomitamment à cet échange, juste après, on entend des voix, en fait, au rez-de-chaussée. Donc, l'horizon de ce qu'on voit, nous, c'est vraiment les sièges du balcon, les lumières au-dessus de la scène, mais c'est tout, quoi. Et on voit pas du tout ce qui se passe au rez-de-chaussée, dans la fosse, etc., dans les coursives. Et on entend une voix, donc on comprend pas trop qui parle. Et on entend quelqu'un qui dit « Casse-toi, connard », à plusieurs reprises. Et ensuite, il y a une série de... 3 ou 4 coups de feu, je crois, sauf erreur. Et il y a un cri, en fait, il y a une énorme explosion qui résonne dans le Bataclan, aussi énorme que, en fait, nous, on est donc au balcon et en fait, on est soufflé quand même. Donc, on tombe pas à la renverse, hein, mais voilà, on sent le souffle. Et on comprend que les deux terroristes qui sont avec nous sont un peu inquiets. Enfin, ça les fait bouger, quoi. Donc, celui qui est contre la balustrade, lui, se met à tirer, on sait pas vers quoi. Et l'autre qui est avec nous nous ordonne de retourner dans la coursive de service dans laquelle on était plus tôt, qui fait 1m30 de large sur 6m de long. Et donc là commence la phase 2 de la prise d'otage, qui en fait est celle où on est reclus dans ce couloir. Et au début on arrive, on est placé au sol, on est tous assis. Et donc ils explorent un peu, donc il y en a un qui regarde par la fenêtre, et il continue à tirer par la fenêtre pour en direction de la police. On voit très bien cette scène. Et en fait moi je me rends compte qu'au bout du couloir il y a un escalier qui descend. Je le savais mais je l'avais pas vraiment réalisé, donc il y a un escalier qui descend. Donc il y a ces deux fenêtres, il y a aussi une porte dans ce couloir qui mène vers une loge, mais la porte est bloquée. Enfin, si j'avais tenté quoi que ce soit, j'aurais été abattu. Enfin, la question se posait même pas, en fait. Et donc, cette deuxième phase de la prise d'otage dure 2 heures, en fait. 2h05. Pour autant, sur le rebord de ma fenêtre un peu plus tôt, j'étais en relative sécurité par rapport à ces plus de 2 heures passées avec les terroristes. Au tout début, on était au niveau du sol, puis après, ils nous ont placés en bouclier humain. Il y a trois otages qui étaient placés contre la porte, et on était 3 devant chacune des fenêtres, avec 2 otages qui étaient un peu partout, un peu flottants. Et donc, moi, j'étais à côté d'un mec, un grand homme chauve qui portait un costard, et en fait, je me demandais qui c'était, quoi. Je me disais, mais c'est qui ce mec, quoi. Enfin, je refusais de mourir sans savoir qui était cette personne à côté de moi. Je lui ai dit la même chose que j'avais dit à Sébastien plus tôt. Je lui ai dit, écoute, ça va aller, quoi. Et je lui attrape la main. Et pareil, je sais pas trop pourquoi, lui, pareil, aujourd'hui, on en rigole parce qu'il me dit qu'il trouve ça un peu marrant, quoi, que j'ai le courage de faire ça alors que, bah, qu'on allait certainement mourir, quoi. Mais, j'avais vraiment cette poussée-là où il fallait que je touche, il fallait que je vois, donc j'essaie de regarder le visage des autres otages. Donc Sébastien, je me rappelle bien de lui, contre la porte, il y avait Grégory, Caroline et Marie, qui aujourd'hui sont de grandes copines. Et grand copain, Grégory aussi. Et c'est vrai que c'était important pour moi de m'imprégner de ce qui se passait dans le couloir. Et donc, j'ai vraiment tout enregistré de manière chronologique, précise. C'est étrange parce que 2 heures, c'est long, en fait. Prise d'otage dure 2h35, je crois. Mais 2 heures et quelques, c'est vraiment très long, en fait. Dans n'importe quelle situation de la vie, on s'ennuierait pendant 2 heures. Et donc là, j'avais tout le temps de m'ennuyer, entre guillemets, et surtout d'avoir peur. Et donc, je me posais plein de questions. Je me disais surtout, est-ce que je vais survivre? Si je meurs, comment je vais mourir? J'ai pas envie de souffrir. Qui sont ces gens autour de moi? À un moment, il y a un des deux terroristes qui pose la question du job des gens, quoi. Enfin, vous faites quoi dans la vie? Donc, Sébastien, je sais plus trop ce qu'il dit. Je crois qu'il dit journaliste. Je sais plus. Stéphane, il dit qu'il est informaticien. Grégory aussi. Arnaud, il dit qu'il est graphiste. Voilà. Et moi, je dis que je suis barman. Et donc, ça m'a permis, peut-être de voir un peu plus qui était qui, quoi. Et en fait, c'est étrange, mais ces moments-là, ils étaient profondément humains, quoi. Et quand on est reclus, vraiment, quand on est loin, 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 comme ça, dans l'inhumanité, on se rend compte qu'il y a toujours des moments de de beauté et de bah, c'est étrange quoi, mais d'humanité quoi. Les terroristes nous menacent en disant que si on a un qui fait le malin, ils se font exploser. Donc on réalise qu'ils ont des ceintures, enfin ils ont des gilets explosifs. Et donc ça rajoute une menace sur la menace ils sont quand même armés. En plus, ils sont des gilets. Donc vraiment, enfin, on se dit de toute façon, s'il y en a un qui tente un truc, bah tous les autres vont mourir. Enfin voilà, il y a ce truc-là, cette menace vraiment qui est là, quoi. Donc on attend. Et ce qui se passe, c'est que les terroristes demandent à parler aux policiers. Et donc ils y arrivent pas dans un premier temps, ils comprennent pas. Et d'un coup, en fait, on comprend qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir cette porte devant laquelle sont placés des otages. Et il y a une voix derrière cette porte avec un accent du sud qui dit qu'est-ce qui se passe machin et les terroristes le menacent, ils disent recule sinon on tire quoi. Et il dit on est en prise d'otage etc. Donc il dit ce qui est en train de se passer dans le couloir à la personne qui se trouve derrière la porte. Et il y a un échange de numéro de téléphone qui est en fait le numéro de Marie, c'est le numéro de Marie qui est passé parce que les terroristes lui prennent son téléphone etc. Donc c'est comme ça que la liaison entre les terroristes et le négociateur de la BRI, c'est la BRI en fait, qui commence à travers cette porte là, machin, et ensuite il y a un coup de fil qui est passé, un premier coup de fil sur une liste de 6, où les terroristes refont leur diatribe et les menacent, et ensuite, nous on entend vraiment très bien le négociateur, parce que les terroristes sont complètement sourds à cause des tirs, donc généralement il y a le haut-parleur qui est mis, et on entend le négociateur qui dit « mais pour l'instant, tu vas devoir patienter parce que on a beaucoup de blessés, écoute, c'est compliqué, je te rappelle, vraiment, patiente, s'il te plaît, voilà, etc. » Donc, il négocie avec lui pour temporiser le maximum. Alors, ce qu'on sait pas, c'est qu'en fait, devant le Bataclan, il y a tout le dispositif de sécurité qui se met en place. Il y a beaucoup de victimes qui sont évacuées concomitamment à la prise d'otage. Donc, en même temps, c'est vachement dangereux parce que les policiers de la BRI, du RAID et des BAC qui sont là pour sécuriser le Bataclan ne peuvent pas progresser tant que la prise d'otage est en cours. Parce qu'ils savent pas exactement d'où la menace vient. On sait juste que, il y a une prise d'otage, mais où exactement, les policiers savent pas. Donc c'est très lent, et c'est pour ça que le négociateur tente de temporiser le maximum. C'est parce que, vraiment, en même temps que ces échanges-là, les policiers progressent tout doucement dans le Bataclan, essaient d'extraire le maximum de victimes. C'est très difficile. Et donc, il y a un deuxième coup de fil, ou les mêmes menaces, le troisième coup de fil, et en fait, je crois que c'est au bout du deuxième, où le terroriste lui dit, écoute, si tu me rappelles pas dans 5 minutes, en fait, on égorge un otage et on le jette par la fenêtre, quoi. Donc le négociateur rappelle, et tout ça dure 2 heures et quelques. Jusqu'à un moment où, en fait, il y a un coup de fil qui est passé, et le terroriste décroche, et en fait, un gros coup est donné dans la porte. Et le terroriste comprend tout de suite qu'ils vont donner l'assaut. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que dans mon esprit, l'assaut, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. Parce que l'assaut indique le plus gros des dangers, c'est-à-dire qu'il se fasse exploser, etc., peut-être nous abattre. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça n'arrive pas. Le premier des terroristes que j'ai vu, qui m'a sorti de cette fenêtre au tout début de la prise d'otage, m'attrape par l'épaule avec Stéphane et en fait nous ordonne d'aller au fond du couloir, donc tout en haut de cette cage d'escalier. Et donc là, il y a une espèce de scène de cohue où en fait il y a des otages qui s'enfuient, il y a aussi le deuxième terroriste. Et on entend la porte qui commence à craquer parce qu'il y a des coups de bélier qui sont donnés dedans. Donc moi, je suis vraiment au fond du couloir. Je vois la porte. J'ai un des deux terroristes qui est face à moi, qui a son arme et qui, en fait, vide sa calache en direction de la porte. Donc, vraiment, moi, j'ai les flashs encore en tête. Et au fond du couloir, je vois une espèce de grand mur noir qui est pas la porte. Parce que là, je vois que la porte est vraiment par terre. Je vois un grand mur noir qui fait la taille de la porte. Donc, ça va faire 1 mètre, peut-être 2 mètres, je sais pas. Et j'entends le terroriste qui vide son arme. Et là, je commence à recevoir des grenades. Je me rappelle très bien de ces grenades avec des liserés jaunes là qui tombent. Et ça pète, ça pète, ça pète. Et en fait, moi, je suis par terre, j'entends plus rien, je vois pratiquement plus rien. Il y a de la fumée. Et en fait, à un moment, je suis vraiment par terre. Stéphane utilise une expression qui est vraiment, vraiment celle-là. Il dit, on essaie de rentrer dans les plaintes. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc, je suis avec Stéphane, on est vraiment collés. Et avec Sébastien aussi, on est tous les trois vraiment le plus serré possible. Et en fait, moi, il y a une explosion qui survient et en fait, je suis soulevé du sol. Vraiment, je pèse 90 kilos et vraiment, l'explosion m'a vraiment soulevé comme si j'étais une plume, quoi. Et en fait, j'entends plus rien, je vois plus rien. Et la seule chose que j'arrive à dire, c'est à l'aide. Et donc, j'ai des mains qui m'attrapent par les cheveux et la ceinture, notamment. Et je le dis en souriant parce qu'aujourd'hui, ce mec, c'est un ami. Et en fait, ses mains me projettent vers l'entrée du couloir. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, je suis face contre terre, quoi, et je vois des cheveux sous la porte, sous l'espèce de truc noir, sans trop comprendre ce que c'est. Et c'est les otages, en fait, qui ont été écrasés par la porte qui s'est renversée et le bouclier de la BRI. Et en fait, je soulève, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je soulève la porte et le bouclier, il y avait Caroline en dessous. Et en fait, j'extrais Caroline du truc et je sors Caroline du couloir. Et en fait, c'est comme ça que se termine la prise d'otage. Aucun de nous n'est gravement blessé, mais on est tous salement, vraiment très salement embauchés, quoi. Et moi, j'ai une blessure aujourd'hui qui continue, c'est une sorte de blessure un peu fantôme, où des fois j'ai un peu mal à la hanche, ce genre de choses qui arrivent, en fait, qui sont des blessures somatiques, qui sont liées au psychotraumatisme. On est tous, ouais, relativement en bonne santé, relativement. Avant de sortir du Bataclan, il faut marcher dedans. Et donc, je me rappelle bien qu'en sortant du couloir, moi, je crois que je dépose Caroline juste je me rappelle plus, mais... Donc je suis, en fait, au bout du balcon, il y a un premier policier qui nous fait signe avec une lampe torche de venir vers lui. Donc c'est un peu des phares dans la nuit, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas obscur, mais moi, je suis sourd. Et en plus, je suis à moitié aveugle à cause des grenades et tout. Donc j'ai cette lumière qui clignote, donc j'y vais, je me rends compte que c'est un mec. Et en fait, le mec me dit continuer ensuite vers l'escalier qui descend au rez-de-chaussée. Donc pareil, il y a un autre mec au-dessus de l'escalier qui nous dit descendez. Et en fait, arrivé à sa hauteur, au-dessus de cet escalier qui est... entre guillemets, dans les couloirs du Bataclan, et il nous dit, regardez pas, on serait en bas, ne regardez pas, quoi. Et on ne sait pas trop de quoi il parle. Donc, moi, je me fonds en larmes, en fait, sur place. Et c'est un mec qui a été extrait, pas du couloir, mais d'une autre pièce qui était pas loin, qui me relève et qui me dit, ça va aller, on sort. Et en fait, je sors du Bataclan à ce moment-là, et j'ai cette bouffée d'air frais je me dis, mais putain, je suis vivant, quoi, en fait. Je suis en vie. Et en fait, bizarrement, je me remets à repenser à Guillaume, à Bambi, à tous mes potes avec qui j'étais venu. Et au moment où je pense à Guillaume, j'ai son parfum qui me vient dans le nez, et en fait, je vois qu'il est là. Et c'est là où, en fait, on s'embrasse et je réalise que j'en suis sorti. Et donc ensuite, on nous fait longer le boulevard Voltaire, tourner à gauche rue Oberkampf, et on nous stocke dans une des cours de la rue Oberkampf, avec plein d'autres rescapés, plein d'autres victimes, en fait. Et je comprends déjà l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui circulent à gare... Guillaume et une fille qui est là, qui est aussi une copine qui s'appelle Alix, me dit mais en fait tu sais il y a pas que le Bataclan. Et je lui dis mais comment ça? Elle me dit ça a commencé au Stade de France, il y a plein de terrasses à Paris qui ont été attaquées. En fait je me dis putain mais c'est pas, enfin moi j'ai vécu qu'un fragment du cauchemar que tout le monde a vécu ce soir-là, quoi. Moi j'accueille ce truc-là avec une violence qui est terrible, parce que je me dis mais putain moi je voudrais pas que d'autres personnes vivent ce que je viens de traverser, quoi. Et donc là, dans cette cour, il y a des policiers qui commencent à circuler et disent mettez-vous en rang, en fait, on va vous auditionner et on va prendre vos coordonnées à la sortie de cette cour. Donc on fait tous la queue, etc. Donc, moi, je cours devant parce que j'ai conscience que la chance que j'ai entre grands guillemets d'avoir passé ces 2h30 avec les terroristes fait que j'ai des informations importantes à donner à la police. Donc je vais devant et je dis aux policiers j'ai été pris en otage. Et il dit mais comment ça? J'ai dit en fait j'ai passé 2h30 avec les terroristes. Et il me dit ok. Et en fait là il me prend un papier, une note, il me donne le papier et il me dit vous allez là-bas. Mais moi j'avais cette mission, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je transmette tous mes souvenirs les plus exacts. Et donc je rentre dans ce bus, et en fait c'est étrange parce que une fois que je suis dans ce bus, je suis vraiment téléporté à ma jeunesse en banlieue avec mon meilleur ami Dylan, où en fait on prenait le bus pour aller au lycée, quoi, et au collège. Et je m'installe au même endroit, quoi. Il y a des images, il y a une image de moi qu'un reporter a pris où je suis vraiment la main sur la barre horizontale et en fait j'ai le regard éteint, quoi. Donc on va au 36 et là-bas encore un policier qui me dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je dis mais j'ai été pris en otage. Et en fait ce qui est étrange c'est que la prise d'otage était relativement méconnue à ce moment-là. Les policiers avaient entendu dire qu'il y avait des otages mais c'était très très flou. Et en fait là je livre tous les détails, dans les vraiment les moindres détails de ce qui s'est passé, tout ce que j'ai entendu, tout ce que les terroristes ont dit et ce qu'ils ont dit entre eux, etc., etc. Et en fait, je donne des éléments assez importants pour l'enquête ensuite. Et en fait, on rentre chez mon pote Guillaume, parce que moi, j'étais venu en voiture au Bataclan. Et on passe la nuit, qui dure à peu près 2 heures, chez lui, dans le 11e, je crois. Ma mère m'appelle sur le téléphone d'Alix. Le téléphone, c'est les terroristes qui l'avaient pris. J'ai ce souvenir de ma mère qui me dit, en espagnol, qui me dit « hijo ». Et moi, ça m'effondre, en fait, parce que je me dis, mais putain, mais dans quoi je suis, quoi. Mes parents sont rassurés parce que je suis vivant. Mais pour autant, je pense que, et eux et moi, se rendons compte qu'on est au tout début d'une histoire incroyable, quoi. La nuit du 13 au 14, donc elle dure 2 heures. Je dors, c'est enfin, moi j'y repense avec un peu de douceur, parce qu'en fait on a tous dormi au même endroit. Il y avait Guillaume, moi, Alix, le mec d'Alix, on a dormi dans un canapé lit, on était tous serrés les uns contre les autres, ça nous a fait, je pense, beaucoup de bien. Et donc je retourne dans ma Twingo et en fait je prends la direction de l'Essonne et je refais le chemin inverse, quoi. Ce qui est dingue, c'est que je me rends compte que je suis plus du tout la même personne. Je me rends compte que je suis plus la même personne parce que je m'interroge, je me dis, est-ce que je vais pouvoir réécouter de la musique? Et ma Twingo, en fait, elle avait l'antenne arrachée et elle ne captait que TSF Jazz. Et ça, c'est un souvenir qui est dingue parce que je me dis, je peux pas faire comme si ça allait. En même temps, j'ai envie d'écouter de la musique. Et donc, je lance TSF Jazz et il me semble que c'est un gros classique du jazz qui passe, c'est Morning de Art Barclay, Jazz Messengers. Et je roule dans Paris avec ce jazz. Et rien que cette question, la violence de cette question, je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir un jour réécouter du rock? Et là, je me dis, ouais, en fait, il y a un truc qui va pas, quoi. Et au fond, bah, je suis détruit, quoi. J'ai toujours entendu ma mère avant de la voir, parce qu'elle parle très fort. Et là, en fait, elle était au téléphone, donc forcément, je l'entendais. Enfin, c'est bizarre, parce que ma mère parle plus fort quand elle est au téléphone, comme si elle devait crier pour que les gens l'entendent au Chili. Et donc, je suis dans le hall d'entrée de l'immeuble de mes parents, et donc j'entends ma mère qui crie, qui dit des trucs en espagnol. Et donc, je monte, et en fait, c'est étrange, parce que je me sens coupable, en fait. J'ai l'impression que mes parents vont m'engueuler, que j'ai fait une connerie... Et donc je sonne parce que j'ai plus de clé, j'ai plus rien, j'ai laissé mon sac au Bataclan, j'ai même pas mon téléphone, j'ai juste les clés de ma voiture, en fait. C'est mon père qui m'ouvre, en fait, et qui, enfin, il y a un moment de flottement où en fait on se regarde et en fait moi je cours dans ses bras, quoi. Mon père c'est un grand bonhomme, il est un peu, je dis amoureusement un peu parce que, enfin, je l'aime beaucoup, c'est mon père, et il est un peu gros, en fait, et donc moi je cours dans ses bras, j'ai vraiment l'impression d'être un enfant. Et donc il me serre dans ses bras et en fait on tombe à la renverse et en fait on s'embrasse et il me dit, tu sais mon fils, je t'aime tellement, etc quoi. Donc c'est vraiment un moment où moi je me dis, ça y est, je suis enfin en sécurité. C'est bizarre, mais vraiment je réalise que ça y est, je suis chez mes parents, il pourra plus rien m'arriver. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très constituant de ce qui se passe après, où en fait où on a besoin, en tant que victime et en tant que personne traumatisée, de se sentir aimé, de se sentir entouré de proches, etc. Et donc, mes parents, ils ont été incroyables. Et ma mère m'a cuisiné un petit truc, tout ça. Et je sais pas si c'est parce que c'est ma maman, mais elle a eu une forme de tendresse et d'amour envers moi qui a été vraiment transformateur pour moi. En fait, je me suis dit, ok, là, c'est bon, je peux me reposer, quoi. Et ça a été extraordinaire. Je pense que j'ai mis au moins 3 semaines à me rendre compte de ce qui s'était passé. Alors j'en parlais beaucoup, j'ai fait beaucoup d'interviews pour des journalistes. J'avais cette espèce de frénésie de raconter, je voulais raconter. Donc j'ai raconté à des médias chiliens, j'ai raconté à des médias étrangers, américains, enfin vraiment à qui voulait l'entendre, en fait. Et donc j'ai commencé à voir ma psychologue début décembre. Donc j'ai participé à plusieurs cellules de crise, à 2 cellules de crise à l'école militaire, où j'ai été vu par des psychiatres. Et les psychiatres m'ont tout de suite dit, il faut vraiment que tu ailles voir un psychologue. Donc j'ai, en fait, concomitamment à ça, j'ai rencontré les hommes de la BRI, qui m'ont sauvé la vie cette nuit-là. Et c'est bizarre, mais quand je commence à réaliser tout ça, et puis en fait, moi, on me convoque à la première DPJ, qui à l'époque était à la porte de Saint-Ouen. Donc il faut que je redépose, que je porte plainte. J'ai dit, mais contre qui je porte plainte? Enfin, c'est très bizarre. Et je récupère aussi mon sac à dos, qui était resté au Bataclan. Et en fait, je dis à cette OPJ qui m'auditionne, qui est vachement sympa d'ailleurs. Et je lui dis, bah voilà, enfin, moi, j'aimerais rencontrer les hommes du RAID. Il me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, bah, c'est ceux qui m'ont sauvé le 13. Et il me dit, bah, en fait, c'est pas le RAID, c'est la BRI. Moi, je connaissais pas la BRI, quoi. Et il me dit, bah, tu sais, c'est compliqué de les rencontrer, c'est des gens très secrets, c'est pas tout le monde, quoi. Et je lui dis, bah ouais, mais moi, ils m'ont sauvé la vie, donc j'aimerais les remercier. Et il m'a dit, ok, bon, je vais aller voir mon chef. Et en fait, il va voir le commissaire et il revient avec le commissaire. Et donc, le commissaire, c'est un peu un archétype du flic parisien qui sent le café, qui roule un peu des mécaniques. Donc, il est venu avec son arme de service, machin et tout, dans le holster. Et il me tend un post-it. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'en parle, j'ai l'impression de raconter une histoire d'un polar. Et c'est un vrai truc. Il me tend un post-it et il me dit, voilà, bon, t'appelles sur ce numéro. Si ça répond pas, tu laisses un message, tu dis qui t'es, que t'as demandé tout ça. Et puis, on te rappellera peut-être. Et après, tu détruis le post-it. Ok. Et c'est vrai que ça fait un peu mission de renseignement, des trucs comme ça. Et en fait, non, c'est juste que c'est des trucs un peu secrets, donc il faut faire attention. Et donc j'appelle en sortant de cette audition et je laisse un message et je détruis le post-it. Et donc, je crois que c'est 2 heures après, on me rappelle, c'est une femme qui m'appelle et qui me dit, ok, bon, on a bien eu votre demande, on est ok pour vous recevoir, etc. Et donc, je dis, mais quand? Elle me dit, bah, demain, 10 heures. Et donc, je vais au 36 Quai des Orfèvres avec ma copine. Et en fait, je me rends compte que dans la nuit du 13 au 14, j'avais été auditionné dans une des salles qui était vraiment collée à la brigade. Et donc, il y a un homme qui est en bas et qui vient me chercher. et en fait qui me fait marcher dans le 36. Il me dit, bah tu vois, ça c'est un escalier historique, classé monument historique, il me fait une petite balade jusqu'à arriver dans la brigade. Et puis en fait, ils sont derrière une porte, et au moment où l'homme qui est avec moi, qui est en fait un des gars qui m'a sauvé la vie, il ouvre la porte, et en fait j'ai peut-être 30 mecs qui me regardent, un peu interloqués quoi, genre c'est qui ce mec, pourquoi il est là? Et en fait, je serre des mains et je leur dis merci à chacun d'eux, quoi. Et il me dit, mais t'étais où? Je dis, bah, j'étais dans le couloir. Et là, en fait, ça a été le début d'une grande amitié avec la BRI qui dure encore aujourd'hui. Et en fait, ils m'ont posé plein de questions, je leur ai posé plein de questions. Et en fait, ça m'a permis de... C'est bizarre, mais j'avais besoin de savoir ce qui se passait en dehors du Bataclan, en fait. Pendant que moi, j'étais à l'intérieur et eux avaient besoin de savoir ce qui se passait dedans quand eux étaient dehors. Donc, on a reconstruit un peu le puzzle. Et donc, voilà, c'est devenu des grands amis et je crois aux grandes dames du commissaire de l'époque. Avant le 13, je voyais Doris un peu en secret. J'étais tombé amoureux d'elle, etc. Elle était revenue du Sud, elle bossait là. Et en fait, peu de temps après le 13, hein, ma copine était aussi très marquée par ça. Et moi, j'avais besoin d'être entouré de gens qui étaient solides, au fond. Et je me disais, enfin, je peux pas continuer à être avec quelqu'un qui est aussi en souffrance. J'arrivais pas, en fait. J'étais désaxé par rapport à moi, déjà. J'arrivais pas par rapport à elle. Et puis, en fait, en parallèle, bah, j'ai envie de voir Doris et j'ai envie de passer du temps avec elle. Et donc, c'était de pire en pire, malheureusement. Et donc, j'ai pris le choix de me séparer de ma copine pour aller avec Doris, en fait. Je sens qu'elle est beaucoup plus forte. En fait, Doris, elle m'a dit après une phrase qui, je pense, a transformé ma manière de regarder le traumatisme. Elle m'a dit, tu sais, moi, je serai là pour changer les pansements, en fait. Et personne m'avait dit un truc comme ça à l'époque. Et c'est la seule personne à me dire texto, ok, moi je serai là en fait. Quand il s'agira de taper dans le dur, je serai là. Et donc, j'ai été vers elle. Et donc, même si j'étais détruit, même si j'étais vraiment blessé psychiquement, je savais que mon chemin était auprès d'elle en fait. Reprendre la vie d'avant, c'est impossible. Déjà parce que j'ai un stress post-traumatique qui est vraiment, vraiment grave, qui est vraiment aigu. J'arrive pas à réécouter du rock, j'arrive pas, par exemple, quand je passe à côté d'un chantier, j'ai peur, vraiment, je suis tétanisé, je fais des crises de panique, je dors mal, je fais des cauchemars, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'amoncellent les unes au-dessus des autres et qui font, en fait, que j'ai un handicap, au fond. Et donc, je décide de quitter mon emploi de barman et surtout de ne pas honorer la promesse d'embauche que j'avais eue au mois de janvier, en fait, juste après, dans cet autre bar. Et ça me détruit, en fait. Parce que moi, je me projetais, justement, dans ce bar. Je m'imaginais là-bas, etc. Et en fait, j'en suis incapable. Il faut vraiment voir cette période après le 13 comme un amoncellement de plein de choses que j'arrive pas à gérer, en fait. Cette séparation, mon stress post-traumatique qui est là tout le temps. J'ai vraiment l'impression d'être dans le brouillard, de souffrir tout le temps, comme si j'avais une plaie ouverte, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce type de souffrance. Et bizarrement, j'ai l'impression que je vais jamais en sortir, en fait. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est vraiment les mots que je mets quand je vois ma psy la première fois. C'est la première chose que je lui dis, c'est quand est-ce que j'irai mieux, quoi. Parce que c'est insupportable. Sandrine, ma psychologue, les premières choses qu'elle m'a dites, elle, en réponse à quand est-ce que j'irai mieux, c'est faut que vous écoutiez David. Et donc, je savais pas trop quoi faire pour m'écouter. Et j'ai eu envie de retourner au Chili, ouais. Pour voir une partie de ma famille, il y a ma sœur qui habite encore là-bas, mes grands-parents, tout ça. Et aussi pour faire un trek en Patagonie, dans un parc national qui s'appelle le Parque National de las Torres del Paine, qui est vraiment au milieu de nulle part, vraiment la Patagonie pure et profonde. On est en février 2016, et donc il y a une autre histoire dans l'histoire. La veille de mon départ au Chili, il y a le concert retour des Eagles of Death Metal à Paris, et c'est à l'Olympia. Et donc j'y vais avec Doris et donc on passe une super soirée, on boit un coup, on retrouve des amis victimes aussi du 13 qu'on a rencontrés. Enfin vraiment c'est un très beau moment quoi. Et mon vol part le lendemain pour le Chili et moi je suis très amoureux de Doris. Et en fait je prends l'avion et dans l'avion je me dis qu'il y a un problème quoi. Je me dis qu'il y a un truc qui va pas, je me sens pas bien, je me sens anxieux, je me sens pire que quand j'étais à Paris quoi. Et je trouvais ça bizarre. Et donc, la chance que j'ai, c'est que dans l'avion, il y a aussi mes parents, parce qu'ils partent au Chili en même temps. Et arrivé à Santiago du Chili, on se sépare. Moi, je vais dans la Patagonie, donc je prends un autre vol pour aller dans le sud du Chili. Et donc, j'arrive dans le parc national, je suis tout seul. Je fais une partie de la rando qui dure 2 heures. Et en fait, j'arrive au premier camp de base et je m'effondre. pleurs, j'ai même plus de larmes en fait. Le lendemain matin, je me réveille et j'appelle ma sœur qui est au Gouchy. Et je dis à ma sœur, Vanessa, il faut que tu m'aides à retourner chez elle, donc à Pouconne, là où je suis né, un peu plus au nord. Et elle m'a dit, ok, on va te sortir de là. Et en fait, j'ai fait tout le chemin inverse le lendemain. Je pense que j'avais été très entouré jusque-là. Et je m'étais pas vraiment rendu compte de ça. Le fait que Doris soit là, mes parents, tout ça, et mes amis, parce qu'il n'y a pas que eux, il y a pas que eux, il y a mes proches, il y a Dylan, qui est mon meilleur ami encore aujourd'hui. Le fait que je sois seul, mêlé au fait que je sois dans mon pays, il y a eu un switch, en fait, et ça a réveillé le traumatisme. La reconstruction est très longue, quoi. Mais elle démarre avec des séances psy toutes les semaines avec Sandrine, et en fait, en même temps aussi, j'entame une procédure auprès du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Donc j'ai une avocate, tout ça, qui m'aide aussi à mieux se consolider, en fait, tout l'environnement autour des attentats, ce qui m'est arrivé, mon préjudice, etc. Donc on me dit, ouais, bah, ce que vous avez vécu, c'est quand même très grave. Donc ça m'a permis aussi de mettre des mots peut-être plus sains, en fait, sur ce que j'ai vécu. C'est bizarre, mais c'est un peu ça. Et le travail avec Sandrine, en fait, au total, il dure 3 ans. Et c'est Sandrine qui me dit, écrivez un livre, mettez-vous à l'écriture. David, vous êtes très bavard, donc il s'agirait de peut-être garder ça en mémoire, donc d'écrire. Elle m'a donné cette idée-là de reprendre le chemin du travail, d'une part, et d'autre part, de sauvegarder ce que j'ai en tête à travers l'écrit. C'est bête, mais j'ai pas le bac, quoi. Et j'ai un CAP photo, max, on va dire. Et j'ai pas le bac, j'ai pas de parcours littéraire, je suis pas non plus un grand lecteur. Je viens vraiment de nulle part dans la littérature, quoi. Pour autant, je savais que mon histoire pouvait être intéressante à lire pour des personnes qui traversent peut-être la même chose ou des personnes qui traversent ce type d'événement. Et je me suis dit, bah, faut aussi montrer au public que c'est possible d'aller mieux, c'est possible de combattre le traumatisme, c'est possible d'y faire face. Et c'est comme ça que j'ai décidé que je commençais à écrire. Et en fait, au début, un jour dans notre vie, j'ai commencé à l'écrire en juin 2017. Et au début, c'était pas un livre. Au début, c'était juste un truc où je racontais mes souvenirs. Et j'ai très vite été entouré d'amis, journalistes, chercheurs aussi, qui m'ont aidé et qui m'ont fait comprendre que bah, ce serait peut-être une bonne idée d'en constituer un livre. Aussi dingue que ça puisse paraître, l'écriture d'un genre dans notre vie m'a permis d'oublier, en fait. Non pas parce qu'aujourd'hui, je suis complètement oublié, mais m'a permis de stocker, en fait, mes pensées, mes souffrances, à tel point qu'aujourd'hui, quand j'ouvre ce livre, il m'arrive de redécouvrir des choses. Et c'est ça qui est... Enfin, je trouve ça vraiment génial. Donc ça m'a permis de dissocier une partie de ma souffrance à ce que je suis aujourd'hui, à ce David d'après. J'ai vraiment découvert le pouvoir de l'écriture, de transformation des pensées, de transformation d'archivage aussi... Un matin, je me suis réveillé et j'avais écrit le livre à peu près à 90% et j'ai dit à Doris, putain, je me rappelle plus du bruit d'une calache, quoi. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a un truc qui a changé, en fait. Et donc, ça m'a poussé à continuer d'écrire. En parallèle, donc Sandrine me disait, bah David, ce serait bien de travailler. Et c'est vrai, je parle beaucoup de Sandrine parce que c'est vrai qu'elle a été très présente et très pressante en même temps. Elle me disait, bah ce serait bien d'essayer de prendre un petit boulot pour voir comment ça se passe. Donc en parallèle, en 2017, je trouve un petit job de préparateur de commandes pour une boîte de cosmétiques. Et c'est à Paris, c'est une petite boîte. Et donc j'y vais, je me fais des potes, tout ça, et ça va, j'ai l'impression. Jusqu'au jour où on arrive, où j'ai pris ce job en août 2017. C'est un contrat jusqu'à décembre. On arrive au mois de novembre. Et bah forcément le 13 avec les dates anniversaires. Et en fait je fais une crise d'angoisse au taf, quoi, et je me sens incapable de rester. Je n'y arrive pas, je trouve ça a pas de sens et je souffre, ça me fait souffrir de faire un truc comme ça qui me fait rien. Et en parallèle, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je sais faire, en fait, c'est ça, qu'est-ce que je sais faire? Et donc bah je sais faire de la photo. Et donc je monte mon auto-entreprise et donc je redeviens photographe professionnel en février 2018. Donc c'est comme ça que je me remets à travailler. Et donc il y a eu vraiment l'écriture du livre en parallèle de cette quête de travail et de sens professionnel. Et la photo m'a permis de donner un cadre déjà financier parce que voilà, jusque-là c'était un peu précaire. Et aussi de, comment dire en anglais, il y a ce mot-là, empowerment, qui me fait comprendre en fait que je sais faire, que je suis capable de faire. C'est là en fait que ma vraie reconstruction commence. Ce qui me rassure, c'est vraiment de réaliser que je suis quelqu'un en fait. Que je suis photographe, que là je suis en train d'écrire un livre. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de comprendre que j'existe dans ce monde. Tout ce ménage et ce truc que j'ai fait durant les 2 premières années de mon travail avec Sandrine, ça a été de comprendre que j'étais une personne que je continue à vieillir. Le livre est sorti en 2020 et plein de gens qui m'ont dit « Putain, mais ton histoire elle est dingue, ça m'a permis de mieux comprendre des trucs, ça m'a aidé ». Des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, qui m'ont dit « j'ai lu ton livre, merci d'avoir partagé ça avec nous, de collaborer en fait à la vie d'une cité, d'un pays, et de transmettre, en fait. Moi, au fond, c'est vraiment ça le plus important, c'est de transmettre mon histoire. Moi, mon histoire, je vis tous les jours avec. Donc, ça m'a vraiment conforté dans l'idée de transmettre mon histoire à l'écrit. Je pense que le sens, c'est moi qui l'ai trouvé, en fait. C'est-à-dire que il a vraiment fallu que je me batte pour sortir de ça, pour pas vraiment trouver un sens, juste le mettre dans une boîte et pouvoir le manipuler à volonté, quoi. Parce que trouver un sens au terrorisme, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Impossible. Et par contre, trouver un sens à son existence ensuite, là, c'est un peu plus possible. Donc, les chemins que j'ai dû trouver pour y arriver, ça a été tortueux et tout. Et mon travail avec ma psy, ma relation avec Doris, qui a été vraiment maintenante, quoi, qui a été forte. Tout à l'heure, je racontais cette anecdote sur la rencontre avec la BRI, tout ça, et ce policier qui vient me voir dans le bureau. En fait, ce même policier m'a dit un jour, il va y avoir un procès. Et je lui dis, mais enfin, quand? Et il me dit, je sais pas, peut-être dans 10 ans, 15 ans. Il savait pas, quoi. Et donc, cette idée de procès a tout de suite gravité dans le cercle des victimes, des associations de victimes, tout ça, parce que tout le monde attendait cette date fatidique où les auteurs ou les co-auteurs de ce qu'on avait vécu allaient être jugés. Et une date est fixée, quoi. Donc, on est en septembre 2021. En janvier 2021, j'ai une journaliste qui vient me voir, qui s'appelle Gaëlle Joly, et qui au service police-justice de France Info, et qui me dit « Écoute, j'ai lu ton livre, on cherche quelqu'un pour collaborer autour du procès, puis en fait, aussi, on va faire une série de podcasts aussi, on voudrait un photographe qui fasse des portraits des gens qu'on interviewe. » Enfin voilà, il me propose toute une idée comme ça de collaboration et de travail aussi, c'est important, sur le procès et sur l'avant-procès. Et donc en fait, on se voit, on commence à en parler, et moi, ça me botte de ouf. Et voilà, donc je commence à voir arriver le procès, et je me dis « Ok, en fait, il faut vraiment que j'embrasse ce truc, et en même temps, je sais pas trop ce que je vais en faire. » Et on se dit, mais pourquoi pas un journal de bord, en fait? Pourquoi pas un blog, un truc où vous tirez tous les jours, tu publierais, ou tous les jours, ou toutes les semaines, ou on sait pas, mais voilà, t'y vas, tu publies un truc, une photo, de l'écrit. Le procès commence, je commence le journal en mettant cette photo en noir et blanc, qui est un couloir du palais, qui ensuite a été complètement investi par tout le dispositif de sécurité autour du procès, et en fait, j'écris quelques lignes, et en fait, le lendemain aussi, et le lendemain aussi, et le lendemain aussi, et en fait, j'arrête jamais. Et au final, j'aurais publié 141 billets, qui couvrent à peu près 97% du procès, et où je raconte en fait mon quotidien. Donc c'était, j'ai fait un peu une redite de ce que j'ai fait dans Jour dans notre vie. Mon idée, c'était de montrer au public de France Info et à la France, en fait, tous les gens qui lisaient, ce que c'était que de vivre un procès historique de l'intérieur pour une victime du terrorisme, et ce que c'était aussi de vivre un procès tout court. Je pourrais même pas en parler comme ça, tellement c'est vaste, tout ce qui s'est vraiment passé pendant ce procès, et à quel point le journal de bord a été reconstituant de moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant, un après-procès, au même titre qu'il y a un avant, après 13. Parce que vraiment, ce que je peux dire avec certitude, c'est que ça a vraiment transformé ma manière de voir l'événement. Je sais que le procès est passé, que les acteurs ont été jugés, que j'ai travaillé sur le procès tout du long, je me suis saisi du sujet, que j'ai déposé à la barre, qu'on m'a entendu. C'est ça aussi. Que la justice m'a entendu. Ça a vraiment lavé, en fait, le 13. Pour parler un peu terre à terre, un truc qui m'a vraiment marqué dans ma réaction le 13, c'est mon sang-froid. Je me suis rendu compte que je savais que j'étais quelqu'un d'assez pondéré et calme et sang-froid, mais là, le 13, j'ai eu une réaction qui est psychiatre qui m'ont vu, on appelait ça une suradaptation. En fait, j'ai été suradapté, c'est-à-dire que j'ai pas paniqué. Et en fait, c'est un calme que je garde encore aujourd'hui. Et ça m'a vraiment appris ça, quoi. Et derrière, ça m'a appris aussi la force que j'ai, quoi. La capacité de créer, de transformer, de ne rien garder pour moi pour que ça puisse servir, etc. Je pense que c'est né aussi du fait que j'ai vécu le déracinement du Chili. Enfin, voilà, j'ai un parcours de vie qui est un peu particulier, qui fait que j'avais déjà été dans ça, en fait. Et puis ils disent que ce qui est là après était là avant, en fait. Et donc j'imagine qu'aujourd'hui, si j'écris et si je transmets autant, si je suis autant attaché à la mémoire collective, c'est que c'était là avant. C'était juste que je m'en rendais pas vraiment compte. Et en même temps, quand on a 23 ans, on est jeune, quoi. Avec Doris, on s'est mariés en 2018, donc ça va faire 5 ans et demi qu'on est mariés, on est toujours très heureux, on a déménagé cette semaine, voilà. Et donc, je suis beaucoup plus apaisé, aussi parce que le procès est passé par là et qu'il m'a vraiment permis de mieux comprendre ce qui s'est passé le 13. Et donc ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a un avant 13 et un après 13, et en fait il y a un avant procès et un après. Et le procès, il a vraiment permis, et je pense que je suis pas le seul à le dire, de mieux comprendre ce qui s'est passé le 13, peut-être mieux appréhender la date et être plus proche de l'événement, techniquement parlant, et peut-être moins émotionnellement aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment comme ça. Et je sais que la tenue du journal de bord, le fait que je sois actif pendant le procès, a participé à ma reconstruction. Aujourd'hui, je suis pas le même homme, quoi. Alors, aujourd'hui, je suis toujours auteur. J'ai un livre qui sort en octobre. Mais en fait, ce que vraiment un des gros trucs que je fais très régulièrement et qui ont vraiment du sens pour moi, c'est ce qu'on fait avec l'Association française des victimes du terrorisme, où en fait, on va en classe, on intervient. Et c'est ce qui me permet peut-être de davantage transmettre en direct, en plus aux jeunes publics, aux étudiants et aux lycéens, et même aux collégiens, c'est arrivé. Où en fait, on leur montre ce que c'est qu'une partie de l'histoire, en fait. Et même si on n'est pas tout le panel des presque 3000 parties civiles que constitue le 13, on montre une partie de l'histoire. Et ça, vraiment, c'est important. Je le fais notamment avec un lycée, c'est le lycée Verlhomme dans le 15e, où en fait, il y a une des professeurs qui est une amie de Stéphane, l'ex-otage comme moi. Voilà, on est une équipe de profs qui organisons des trucs. Donc cette année, on invite quelqu'un d'important, je peux pas vraiment dire, et les élèves vont pouvoir lui poser des questions, etc. Donc c'est, je pense que pour, autant pour les élèves c'est très interactif, c'est très enrichissant, et pour nous partie civile, victime, ex-otage, c'est constituant aussi, parce qu'on, ce qu'on a vécu trouve du sens dans la mémoire des élèves.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.